Bonjour à toutes et à tous. Je dis bonjour en particulier aux personnes que je n'ai pas vues tout à l'heure. Et en tout cas, bienvenue aux uns et aux autres, comme ça a été dit. Bienvenue pour ce temps aussi de culte où nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je crois avoir déjà eu l'occasion de le dire ici. J'aime la randonnée, j'aime la montagne. Et si vous avez tenté de gravir une montagne, eh bien, vous avez sans doute fait cette expérience. Tant que vous marchiez entre les arbres et sur les petits chemins, eh bien, votre visibilité était limitée. Vous voyez simplement une partie du paysage, mais c'est seulement arrivé au sommet que vous gagnez un nouveau point de vue pour voir tout ce qui est autour de vous. Je pense que vous avez déjà fait cette expérience si vous avez fait un petit peu de randonnée. Tant qu'on est en train de marcher dans les petits chemins, on ne voit qu'une partie du paysage, mais une fois en haut, on a un panorama extraordinaire. Enfin, la plupart du temps, c'est extraordinaire. Je n'ai pas mis ces photos pour vanter mes exploits ou quoi que ce soit. Simplement pour vous montrer à quel point j'aime la montagne. Mais d'une toute autre façon, 3 des 12 disciples ont aussi gravi une montagne et ont vu ce qu'ils n'imaginaient pas voir. Alors, non pas une vue panoramique et époustouflante sur le paysage, mais la vision de la gloire divine de Jésus, leur maître. Et cet après-midi, c'est donc sur cette montagne. Cet après-midi, c'est donc sur cette montagne que nous nous rendons avant de redescendre. Parce que même après une bonne randonnée, il faut redescendre. Alors j'espère que vous avez pris votre équipement. Visiblement pas. Mais en tout cas, allons-y, lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 9, les versets 1 à 13. Et Jésus s'adresse à la foule. Verset 1. Il leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. » Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole, tout en discutant entre eux, qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts? Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord? Il leur répondit, Élie vient d'abord et rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Alors je sais que pour un certain nombre d'entre vous, c'est un texte familier, puisque vous l'avez étudié durant cette semaine. Alors il y a des choses que, sans doute, je vais dire et vous dites, bah oui, ça aussi on l'a dit. Et puis d'autres peut-être, eh bien, que vous allez découvrir dans ce texte. Nous sommes toujours dans la section centrale de l'évangile de Marc, au moment où Jésus se dirige vers Jérusalem, et donc vers sa mort et sa résurrection. Et durant ce voyage vers Jérusalem, eh bien, à la manière de l'aveugle que Jésus avait précédemment guéri en 2 temps, le Seigneur entreprend d'ouvrir les yeux de ses disciples afin qu'ils puissent mieux comprendre l'identité de leur maître. et également qu'ils puissent mieux comprendre la véritable nature de sa mission. Pour le moment, bien que Pierre ait confessé que Jésus est le Messie, les disciples ne comprennent pas vraiment pourquoi il est si nécessaire que le Fils de l'homme souffre et meure. Et dimanche dernier, nous avons entendu l'appel de Jésus à le suivre, à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix. Nous avons terminé avec cela la semaine dernière. Et voici que quelques privilégiés, comme nous l'avons lu à l'instant, vont avoir confirmation que Jésus est véritablement le Messie, qu'il est le glorieux Fils de Dieu. Mais notre texte ne s'arrête pas sur ce qui s'est passé sur la montagne. Et comme nous l'avons lu, Jésus et ses disciples redescendent. Et de nouveau, le Seigneur évoque les souffrances qu'il doit connaître. Et nous retrouvons dans le texte d'aujourd'hui, de cet après-midi, les deux facettes de Jésus, telles qu'il est présenté chez Marc, et que nous ne pouvons pas séparer, au risque d'avoir une perception déséquilibrée de Jésus. Deux facettes que nous ne pouvons pas séparer. Jésus est à la fois le Messie puissant, glorieux, et en même temps le serviteur souffrant et méprisé. Deux facettes qu'il ne faut absolument pas séparer, au risque d'avoir une perception déséquilibrée de Jésus. Eh bien, commençons d'abord par la gloire du Fils de Dieu. Et avant d'évoquer à proprement parler le récit de la transfiguration, eh bien, il nous faut d'abord écouter ce que Jésus dit à la fin de son discours. « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Voilà une déclaration qui devait être surprenante pour les auditeurs de Jésus. De quelle manière le royaume de Dieu pourrait venir avec puissance ? Évidemment, si nous faisons la liaison entre ce verset et les versets suivants, eh bien nous comprenons que Jésus fait allusion à la manière dont il va se manifester à trois de ses disciples. Et il est sans doute possible également de comprendre que le royaume de Dieu viendra avec puissance au moment éclatant où Jésus sera ressuscité. Et quelques-uns auront effectivement le privilège de voir le ressuscité. Mais néanmoins, focalisons-nous sur ce que Marc nous rapporte dans les versets qui suivent. Parmi les 12, trois disciples seulement vont avoir droit à une vision unique sur la haute montagne où Jésus les conduit. Pierre, Jacques et Jean, eux seuls, à l'écart, précise Marc, eux seuls. Et leurs trois noms ont déjà été mentionnés dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Si vous connaissez un petit peu cet épisode où Jésus garde ses trois disciples avec lui au moment où il ressuscite la fille de Jaïrus, un chef de la synagogue. Et donc il est déjà fait mention de ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et il semble que Jésus voulait spécifiquement ses trois disciples à ses côtés à certains moments de son ministère. Et seulement eux. À notre échelle, si on nous donnait la possibilité de rencontrer en privé une célébrité que nous admirons, essayez de penser à une célébrité que vous aimeriez rencontrer peut-être, éventuellement. Eh bien, si on nous donnait la possibilité de pouvoir rencontrer cette célébrité en tête-à-tête, nous nous estimerions privilégiés, n'est-ce pas ? Loin de la foule des fans, juste cette célébrité et nous. Mais il est entendu que Jésus est plus grand que n'importe quelle célébrité ici-bas. N'est-ce pas ? Merci pour votre acquiescement. Jésus est plus grand que n'importe quelle célébrité ici-bas. C'est pourquoi le privilège de ces trois hommes est tellement grand. Et tout ce qui nous reste de leur expérience, c'est le récit de ce qu'ils ont vu et vécu dans les évangiles. Et aussi dans la deuxième épître de Pierre. Pierre fait mention de cette expérience dans sa deuxième épître. Et c'est tout ce qui nous reste de leur expérience. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne ? Pourquoi Jésus a-t-il été transfiguré devant ses disciples ? Et qu'est-ce que signifie cette transfiguration ? Nous devons nous poser ces questions pour essayer de comprendre ce moment si important dans la vie de Jésus, comme dans la vie de ses trois disciples. Mais avant d'en parler, eh bien, retournons plusieurs siècles en arrière et lisons d'abord ce qui s'est passé sur une autre montagne. Je suis dans le livre de l'Exode, au chapitre 24. Sur cette montagne qui est le mont Sinaï, il s'est passé des choses qui semblent assez similaires. Voici ce que nous lisons au chapitre 24 à partir du verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Verset 15, « Moïse monta sur la montagne, qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Et il semble que nous pouvons relever quelques similitudes entre l'expérience du mont Sinaï, que je viens de lire, et l'expérience que vivent Pierre, Jacques et Jean. Par exemple, eh bien, nous voyons que Moïse monte avec 3 hommes, dont nous avons le nom. Bien sûr, en plus du groupe des 70 anciens. Deuxième élément, la vision à laquelle ils assistent n'est rien de moins que la gloire de l'Éternel. Autre détail qui devrait aussi nous mettre la puce à l'oreille, eh bien, il est question de 6 jours ici. Or, dans le texte de Marc, il est dit aussi « après 6 jours, voilà ce qui s'est passé ». Et puis enfin, il est question aussi, eh bien, dans notre texte, de la nuée qui recouvre la montagne. Coïncidence ? Je ne pense pas. Nous retrouvons de tels éléments dans le récit de Marc comme autant d'échos avec le texte de l'Exode, pour nous faire penser au texte de l'Exode. Dans le passé, le peuple d'Israël avait eu un aperçu de la gloire de Dieu. À présent, Pierre, Jacques et Jean vont voir la gloire de leur maître qui n'est autre que Dieu. Et regardez donc la description. On revient au texte de Marc. Verset 2, « Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. » Jésus devient brillant. C'est sa gloire qui se manifeste devant les yeux de ses disciples, sous les yeux de ses disciples. Sa gloire est telle que ses vêtements ont une blancheur incomparable. Et rien sur terre, aucune expérience, aucune expertise humaine n'égale une telle blancheur. C'est pourquoi il nous est même difficile de l'imaginer, puisqu'il n'y a pas de comparaison dans notre expérience. Mais cela devait être tellement magnifique. Cela devait être tellement magnifique, mais en même temps, visiblement très effrayant. Quand nous voyons la réaction des disciples au verset 6, l'effroi les avait saisis. Ce n'est pas rien que de voir Jésus dans sa gloire. Et autre phénomène qui sort de l'ordinaire et que vous avez bien sûr remarqué, c'est qu'au verset 4, il est question de ces hommes du passé qui font leur apparition aux côtés de Jésus. Et ce n'est rien de moins que Moïse et Élie. Comment pouvons-nous expliquer leur présence ? Alors évidemment, ils font penser à l'Ancien Testament. Et la plupart des commentateurs estiment que Moïse est le représentant de la loi, tandis qu'Élie est celui des prophètes. Et la loi et les prophètes, c'est ainsi que l'Ancien Testament est désigné. Et en ce sens, Jésus apparaît comme celui qui accomplit tout ce qui a été dit à son sujet dans la loi et les prophètes. Sans doute faut-il ajouter que la présence d'Élie et de Moïse à ce moment historique n'est pas anodine. Nous sommes à un moment fort de l'histoire d'Israël. Après une si longue attente du peuple d'Israël, le Messie est là. C'est un moment historique quand même, dans l'histoire du peuple d'Israël. Eh bien, pour en témoigner, Moïse et Élie sont là, à ce moment-là. Moment historique dans l'histoire d'Israël. Et pourtant, c'est un événement qui paraît incroyable, mais pourtant, il semble que Pierre ne mesure pas toute la teneur de ce qui se passe sous ses yeux. Et un commentateur souligne que ce que Pierre propose à Jésus est incongru, à côté de la plaque. D'abord, il l'appelle Rabbi. Mais à ce moment-là, Jésus apparaît bien plus qu'un simple maître. Et comme cela va être confirmé, il est le Fils de Dieu. Pierre devrait au moins l'appeler Seigneur à ce moment-là. Et ensuite, eh bien, Pierre veut dresser trois tentes pour les trois illustres hommes. Mais là aussi, c'est une proposition en décalage avec ce qui est en train de se passer. Parce que la présence d'Élie et de Moïse n'est pas censée durer comme nous le montre la suite du texte. Pierre veut peut-être faire durer l'expérience, mais ce n'est pas à lui d'en décider. Et Marc précise d'ailleurs au verset 6, il ne savait que dire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous-mêmes, à sa place, nous aurions dit ? Peut-être la même chose. Nous sommes en montagne, dressons des tentes. Mais nous n'avons pas le temps de nous poser la question. Regardons plutôt le verset 7. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Nous savons, en lisant en particulier le livre de l'Exode, que la nuée représente la présence divine. Et comme lors du baptême de Jésus, qui nous est raconté au premier chapitre et que nous avons vu ensemble il y a déjà plusieurs semaines, une voix déclare que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. C'est le témoignage de Dieu le Père qui est cette fois-ci adressé aux disciples de Jésus. Et à cela s'ajoute cet ordre, écoutez-le. Et là, il n'est plus question d'Élie ou de Moïse, mais de Jésus seulement. Et en sa qualité de fils de Dieu, Jésus a toute la légitimité, a toute l'autorité pour être écouté. Mais en plus, cet ordre renvoie directement à un texte du Deutéronome. Lorsque Moïse dit, Deutéronome chapitre 18, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. » Bien sûr, entre Moïse et Jésus, d'autres prophètes ont surgi, dont Élie d'ailleurs. Mais aucun de ces prophètes n'était le prophète par excellence. Et donc, en donnant cet ordre, écoutez-le, Jésus est ainsi identifié à ce prophète semblable à Moïse, qui est en même temps, en réalité, plus grand que Moïse. Et c'est donc aussi en qualité de prophète, en qualité de porte-parole de Dieu, que les disciples doivent écouter Jésus. Écoutez-le. Voilà ce que les disciples doivent comprendre de ce qu'ils sont en train de voir. Ils voient le Fils de Dieu en personne, dans sa gloire. Et Dieu leur demande, écoutez-le. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Ils doivent se fier aux paroles de Jésus. Ils doivent se fier à son enseignement. Et en particulier dans le contexte, ils doivent se fier aux annonces qu'il est en train de faire quant à ses souffrances, quant à sa mort, quant à sa résurrection. Écoutez-le. C'est aussi ce que nous devons retenir de ce récit de la transfiguration. D'autant plus qu'en ce qui nous concerne, nous n'avons rien vu de tout cela. Mais tout ce qui nous reste, c'est ce que Jésus a dit. Écoutez-le. Nous n'avons pas vu, mais écoutez-le. Dieu accorde de l'importance à l'écoute. Lorsque vous regardez notamment dans le Deutéronome, le nombre de fois où Dieu interpelle son peuple. Écoute, Israël. Dieu ne se focalise pas sur la vue, mais sur l'écoute. Beaucoup plus, en tout cas. Écoute. Écoutez-le. Et il ne s'agit pas d'écouter n'importe qui ou d'écouter n'importe quel discours. Il s'agit d'écouter Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous l'écoutons encore? Est-ce que les paroles de Jésus ont encore une influence dans ta vie? Est-ce que tu les considères comme des paroles de vie? Ou bien avons-nous fait preuve de négligence en matière d'écoute et donc en matière d'obéissance? Mes amis, il est encore temps cet après-midi de faire ce que Dieu lui-même demande de faire, à savoir écouter son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Personne d'autre ne mérite une aussi grande attention de notre part. Pour l'écouter, nous devons savoir ce qu'il a dit. Nous devons savoir ce qu'il a ordonné. Nous devons savoir ce qu'il a enseigné pour ensuite pouvoir le mettre en pratique. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean dit également dans son évangile qu'il est lui-même la parole de Dieu. Donc, écoutez-le. Prends ta Bible et écoute le Seigneur. Mais pas comme ça. Pas collé à l'oreille. Mais comme ça, en ouvrant la Bible. Parce que Dieu a dit de Jésus qu'il est son Fils, écoute-le cet après-midi. Écoute-le durant la semaine qui vient. Et écoute-le durant toute ta vie. Prends au sérieux les paroles de ton Seigneur Jésus. Ce sont désormais ses paroles qui dirigent ta vie. Écoutez-le. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les versets 8 à 10, mais je ferai seulement deux remarques. D'abord, que la scène de la transfiguration prend fin. C'était un moment très particulier, extraordinaire, exceptionnel, mais ça prend fin. Moïse et Élie ont disparu et seul Jésus, sans doute revenu à son apparence d'avant, est avec eux. Deuxième remarque, quand Jésus recommande à ses disciples de garder le secret sur ce qu'ils ont vu, jusqu'à sa résurrection, eh bien nous voyons que les disciples n'ont pas encore tout saisi. Ils n'intègrent pas le fait que Jésus va ressusciter. Pour quelle raison? Bien, parce qu'ils n'admettent pas que leur maître, le Messie, va mourir. Et comme je l'ai indiqué dès le début, ne restons pas juste avec l'image d'un Jésus glorieux. Et ô combien cette vision a dû être magnifique. Mais allons jusqu'au bout de notre écoute du texte. Car Jésus, lui, ne perd pas de vue ce qu'il attend. Et c'est ce que nous voyons dans la suite du texte concernant son humiliation. Il y a la gloire, mais il y a aussi l'humiliation. Et nous ne pouvons pas séparer les deux. Les trois disciples ont vu Élie sur cette montagne et ils cherchent à comprendre ce que les scribes de leur temps disent à propos d'Élie qui doit venir d'abord. Et comprenez, Élie qui doit venir d'abord, c'est-à-dire il doit venir avant le Messie. Or, s'ils viennent de voir le Messie, Jésus, comment comprendre qu'Élie doit venir d'abord? Est-ce qu'il est en retard? Comment comprendre cela? Eh bien, voici à quelle prophétie ils font référence. En Malachie chapitre 3, les versets 23 à 24, l'Éternel dit « Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. » Dieu a promis d'envoyer Élie avant le jour du jugement. Et certains, à cette époque, pensaient même que c'était Élie en personne qui devait revenir. Élie qui, autrefois, avait été enlevé par le Seigneur, eh bien, c'est lui que certains attendaient, en personne. Et le rôle de cet Élie, comme vous voyez dans cette prophétie, consistait à orienter le peuple de Dieu vers la repentance. Qu'il y ait cette sorte de réconciliation entre père et enfant. Que les uns et les autres puissent abandonner leurs péchés. Et en cela, eh bien, Jésus confirme au verset 12 qu'Élie est celui qui rétablit toutes choses. Comprenez qu'Élie est celui qui prépare le terrain pour le Messie. Qu'il est celui qui prépare le peuple à accueillir le Messie. Et nous avons vu au chapitre 1er de l'évangile de Marc que c'est Élie qui doit venir et Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Et comme le dit Jésus, eh bien, au verset 13, Élie est venu. Élie est déjà venu, en fait. Mais le Seigneur ne se contente pas de cette réponse. Et regardez maintenant la question qu'il pose au verset 12. Et je vais lire cette question qui est formulée un peu plus clairement dans cette version, la version Semeur. Pourquoi l'Écriture annonce-t-elle aussi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et sera traité avec mépris? Jésus amène ses disciples à se poser une autre question. Pas la question qu'ils ont posée, mais une autre question. À réfléchir à ces textes de l'Ancien Testament qui annoncent que le Messie doit souffrir. Oui, Élie est déjà venu. Oui, Élie a appelé le peuple à la repentance. Oui, Élie a préparé le peuple pour accueillir le Messie. Et pourtant, le Messie qui vient ensuite doit souffrir et doit connaître le mépris et le rejet. Comment comprendre cela? Jésus dit d'ailleurs qu'Élie est non seulement venu, donc on parle de Jean-Baptiste, mais aussi qu'il a souffert. Et lorsque nous retournons au chapitre 6 de l'évangile de Marc, nous lisons ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Jean-Baptiste? Et effectivement, il a été décapité. Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste selon la demande de la fille d'Hérodiade sur les conseils de sa mère. Et selon certains commentateurs, eh bien, si Jésus dit dans notre texte que cela était écrit à son sujet, cette souffrance, eh bien, c'est en référence à ce qui nous est raconté du prophète Élie, le premier. Le prophète Élie, d'après ce qui est raconté dans le livre de 1 roi. En effet, si vous connaissez un petit peu cette histoire, Élie n'a cessé d'être en confrontation avec un mauvais roi, le roi Akab, et a dû même fuir pour sauver sa vie, menacé par Jézabel, la femme du roi. Donc on voit des correspondances entre la persécution qu'a connue Élie et puis la persécution qu'a connue Jean-Baptiste. Et en ce sens-là, eh bien, Jésus dit, voilà ce qui a été écrit à son sujet. Le premier Élie a souffert, le second, Jean-Baptiste, a aussi souffert. Et bien plus, il a fini par être exécuté. Depuis la première annonce de ses souffrances, Jésus cherche à faire comprendre à ses disciples non seulement qu'il est bien le Messie, mais qu'il doit passer par ce chemin de souffrance, comme cela est écrit. Mais pour les disciples qui voient encore le Messie comme un grand libérateur triomphant, la souffrance de ce dernier n'est tout simplement pas concevable ou n'est pas logique. Si vous pensez aux héros que vous avez pu admirer dans votre enfance ou peut-être encore actuellement, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous attendez de ce héros, c'est qu'il soit simplement des sauveurs, qu'il soit triomphant. Mais non pas qu'il meure. Ça ne colle pas avec notre logique. Et comme nous le verrons encore dans la suite du chapitre 9, eh bien les disciples ne comprennent toujours pas cette facette du Messie. Pour nous qui connaissons ce qui est arrivé à Jésus, il ne fait aucun doute qu'il a effectivement beaucoup souffert de la main des hommes. Lui, le Fils de Dieu, a été méprisé. Et l'humiliation est totale, précisément parce qu'il est le Fils de Dieu. Il peut nous arriver d'être humilié. Et déjà, on en souffre et ce n'est pas toujours agréable. Mais pour le Fils de Dieu, l'humiliation est totale. Parce que précisément, son rang est bien plus élevé que le nôtre. Nous ne devons jamais oublier combien notre Sauveur a souffert et ce qu'il a dû endurer de la part des hommes. Et vous vous rendez compte que même à ce niveau-là, au niveau de la souffrance, Jésus a accompli ce qui était écrit à son sujet. Nous connaissons les textes qui annoncent sa naissance, qui annoncent sa venue, qui annoncent son règne sans fin, mais aussi les textes qui annoncent que le serviteur de l'Éternel doit souffrir, mourir et ressusciter. Nous pensons évidemment à Ésaïe 53. Et vous pourrez prendre la peine de relire ce chapitre pour encore une fois comprendre tout ce qui nous est dit ici. Et nous savons que c'est en lien avec nos péchés que Jésus a dû souffrir jusqu'à la mort. Nous avons tous été la cause de ces souffrances. Et en même temps, c'était le plan de Dieu. Et en même temps, c'était le plan de Dieu annoncé depuis des siècles, transmis dans les Écritures. C'était écrit d'avance. Voyez ce Jésus qui n'est pas resté en haut de la montagne, mais qui a poursuivi son chemin jusqu'à la croix sans jamais reculer. N'est-ce pas un tel Messie que nous voulons suivre ? Pas seulement celui qui est plus fort que la mort et qui soulage de la souffrance, mais aussi celui qui ne recule pas devant la mort, qui va au-devant de la souffrance. Nous suivons un Sauveur qui a connu l'humiliation. C'est pourquoi son appel à le suivre, son appel à porter notre croix fait sens. Après tout, pourquoi souffrirais-je pour quelqu'un qui n'aurait pas souffert ? Ça n'en vaudrait pas la peine. Pourquoi souffrirais-je pour quelqu'un qui n'aurait pas souffert ? Or, notre Seigneur a beaucoup souffert. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à des chrétiens qui connaissent la persécution. Et voici ce qu'il leur écrit. Écoutez bien. Hébreux chapitre 13, versets 12 à 13. « Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, et tout à l'heure nous avons chanté à propos du sang de Jésus, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humilié comme lui. » Alors bien sûr, il y a une image ici. « Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humilié comme lui. » Mes amis, je sais que dans une société où nous avons de plus en plus de mal à supporter la souffrance, ce que j'évoque là n'est pas du tout populaire. Pourtant, ce que vivent nos frères et sœurs persécutés nous rappelle la réalité de la souffrance pour le simple fait de suivre le Christ. Si Jean-Baptiste a souffert, si Jésus a souffert, si les apôtres par la suite ont souffert, tout chrétien qui marche à la suite de Christ connaît aussi la souffrance sous une forme ou sous une autre. Pensez aux moqueries dont vous avez pu être victime parce que vous étiez chrétien. Pensez au refus des autres d'écouter le message que vous avez envie de leur apporter, à savoir l'Évangile. Pensez au nombre de fois où on vous a ri au nez parce que vous croyez en Dieu. Pensez au changement de regard de certaines personnes depuis qu'elles savent que vous êtes chrétien. D'une manière ou d'une autre, tout chrétien qui marche à la suite de Christ connaît une souffrance. Mais moi, je suis prêt à souffrir pour celui qui a vraiment souffert. Mais pour être tout à fait honnête, je ne sais pas jusqu'où. Encore cette semaine, j'écoutais les témoignages de certains de nos frères et sœurs persécutés, et je me dis, non, à leur place, j'y arriverai pas. Je ne supporterai pas qu'un membre de ma famille puisse être tué sous mes yeux. Accepter que le Messie soit aussi le serviteur souffrant nous prépare à endurer la souffrance. Si nous acceptons que Jésus soit ce serviteur souffrant, cela nous prépare à endurer la souffrance. La souffrance dont je parle, c'est la souffrance quand il s'agit pour nous de ne pas renier notre foi en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Regardez simplement les disciples, et j'aimerais les donner en exemple, et vous allez voir ce qu'il en est. Regardez les disciples, ils n'ont pas accepté dans un premier temps un Messie souffrant. Et au moment de l'épreuve, qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-moi. Ils ont tous abandonné le Maître, parce qu'ils n'acceptaient pas un Messie souffrant. Mais après la résurrection de Jésus, une fois qu'ils ont compris que leur Maître devait passer par là, les disciples, totalement transformés, sont allés au-devant de la souffrance. Au point que Luc nous rapporte dans le livre des Actes qu'après avoir été fouetté, Actes chapitre 5, verset 40, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Vous avez vu la transformation ? Parce qu'ils ont accepté que leur maître soit le serviteur souffrant. Et ça les a aidés à supporter cette souffrance. Ces hommes ont vu leur maître souffrir auparavant et ils ont été prêts à supporter aussi cette souffrance à cause de son nom. Alors la question que j'aimerais nous poser, et ce n'est pas une question facile, c'est est-ce que nous avons bien compris ce qu'implique de suivre un sauveur qui a souffert ? Ce n'est pas une question facile, mais nous devons nous poser cette question-là. Avons-nous bien compris ce qu'implique de suivre un sauveur qui a souffert, qui a connu l'humiliation ? Pour être prêt, éventuellement, lorsque cela arrive, d'être humilié comme lui. Je ne vais pas terminer sur cette touche-là. Mais je veux dire simplement, en qui avons-nous placé notre confiance ? Qui est le sauveur qui se tenait ce jour-là sur cette haute montagne ? Il est à la fois le glorieux Fils de Dieu et le Fils de l'homme souffrant. Il est celui que nous devons écouter tout au long de notre marche chrétienne, une marche qui n'évite pas la souffrance. Mais un jour, celui qui a tant souffert, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père, reviendra dans la gloire. Et ce que nous n'avions pas vu au jour de la transfiguration, nous le verrons. Alors, comme l'a écrit l'apôtre Paul au chapitre 8 de sa lettre aux Romains, nous éprouverons effectivement qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir. Nous attendons ce jour et nous prions notre Dieu en disant « Que ton règne vienne ». Amen. Je voudrais vous laisser le temps de répondre à la parole de Dieu dans un moment de prière. Là où précisément le Seigneur vous a interpellé, là où il vous a parlé sur un aspect ou sur un autre, vous pouvez lui répondre. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier de nous avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci pour cette expérience que ces trois disciples ont pu vivre et qui nous est rapportée dans ta parole. Et merci de nous permettre de nous focaliser sur l'essentiel. Oui, tu nous appelles encore cet après-midi à pouvoir écouter ton Fils. C'est lui le prophète par excellence. C'est lui qui avait été annoncé depuis si longtemps. C'est lui le Messie. C'est lui notre Sauveur. Et c'est vrai que c'est aussi un Sauveur qui a souffert, qui a connu l'humiliation de la part des hommes, le rejet, une telle souffrance jusqu'à la mort. Et c'est à la suite d'un tel Sauveur que nous marchons. Et tu nous fais comprendre, Seigneur, encore cet après-midi, que oui, nous devons être émerveillés devant ta gloire, mais en même temps, nous devons nous tenir prêts lorsqu'il s'agit aussi de souffrir. De souffrir à la suite de notre Maître. De souffrir pour ne pas renier ton nom. Pour ne pas renier notre foi, notre attachement, notre engagement. Et ce n'est pas toujours facile, Seigneur. Et tu le sais, tu connais nos faiblesses, tu sais combien nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous fortifies par ton esprit. Et que de cette manière-là, effectivement, nous puissions tenir ferme face à la souffrance. Et que comme les apôtres, Seigneur, nous puissions aussi estimer que c'était une grâce de pouvoir souffrir pour la cause de ton nom. Je sais, Seigneur, que cet enseignement n'est pas facile à entendre. Mais pourtant, je suis convaincu que sur ce chemin-là, jamais tu ne nous abandonnes. Et que nous pouvons toujours compter sur ton soutien, sur ton secours, jusqu'à notre dernier souffle. Alors merci Seigneur de nous montrer encore que nous pouvons entièrement placer notre foi en Jésus. Lui le Seigneur glorieux, lui le serviteur souffrant. À toi seul soit la gloire. Amen.